Audiolib présente Hypothermie de Arnaldur Indridason. Lu par Jean-Marc Delos. Le frère aîné se remit de ses engelures, mais après l'événement, on le décrivit comme solitaire et apathique. Tragédie sur la lande des Skifjardar Heidi. C'était à peine si Maria était consciente pendant l'enterrement. Assise au premier rang, apathique, elle tenait la main de Baldwin sans réellement prêter attention à ce qui l'entourait, ni à la cérémonie. L'homélie de cette femme pasteur, les gens venus à l'inhumation et le chant du petit chœur de l'église se confondaient en de douloureuses variations. En passant les voir à leur domicile, le pasteur avait pris quelques notes. Maria connaissait donc la teneur de son discours. Il y avait surtout été question du parcours de Léonora, sa mère, du courage dont elle avait fait preuve dans son combat contre la maladie, de la foule d'amis dont elle s'était entourée au cours de sa vie, d'elle-même, sa fille unique, laquelle, dans une certaine mesure, marchait sur les traces de sa mère. Le pasteur avait noté combien la défunte excellait dans son domaine, en précisant qu'elle n'avait toutefois pas négligé ses nombreuses relations. La chose était parfaitement visible dans l'assemblée, en cette triste journée d'automne. La plupart de ceux qui emplissaient l'église étaient des chercheurs. Léonora avait parfois vanté à Maria les avantages qu'il y avait à appartenir au corps universitaire. Ses propos étaient teintés d'une certaine arrogance que Maria avait choisi d'ignorer. Elle se rappelait les couleurs d'automne dans le cimetière et les flaques gelées sur l'allée de gravier qui descendait jusqu'à la tombe, le craquement qu'on entendait lorsque la fine pellicule de glace cédait sous les pieds des porteurs. Elle se souvenait de ce froid et de ce signe de croix qu'elle avait tracé au-dessus du cercueil de sa mère. Elle s'était tant de fois imaginée dans cette situation, dès qu'elle avait compris que cette maladie allait emporter sa mère, et ce moment était maintenant arrivé. Les yeux fixés sur le cercueil au fond de la fosse, elle avait récité dans sa tête une brève prière avant de tracer un signe de croix de sa main tendue. Puis, elle était restée immobile sur le bord de la tombe jusqu'à ce que Baldwin l'emmène. Elle se souvenait de ces gens qui, pendant le verre d'adieu, étaient venus lui témoigner leur sympathie. Certains lui avaient proposé leur assistance. S'il y avait quoi que ce soit qu'ils puissent pour elle, elle ne s'était mise à penser au lac qu'une fois le calme revenu, lorsqu'elle s'était retrouvée assise, seule avec elle-même, jusque tard dans la nuit. Ce fut seulement lorsque tout fut terminé, alors qu'elle revivait dans sa tête ce jour pesant, qu'elle s'était mise à réfléchir à l'absence de la famille de son père à l'inhumation. Chapitre 1. L'appel parvint à la centrale d'urgence peu après minuit. Depuis un téléphone portable, une voix féminine affolée s'exclama :
Elle sait. Maria s'est suicidée. C'est affreux. C'est horrible.
Quel est votre nom, s'il vous plaît ?
Karen.
D'où nous appelez-vous ? Demanda l'employé de la centrale d'urgence.
Je me trouve dans sa maison d'été.
Où ça ? Où est-ce ?
Au lac de Thingvellir. Dans sa maison d'été. Faites vite, je vous attends.
Karen avait bien cru qu'elle ne parviendrait jamais à retrouver cette maison. La dernière fois qu'elle y était venue remontait à loin, presque 4 ans. Maria lui avait pourtant fourni des indications détaillées, mais celle-ci lui était plus ou moins entrée par une oreille et ressortie par l'autre. Elle était certaine de se rappeler la route. Elle avait quitté Reykjavik peu après 8 heures du soir, par une nuit aussi noire que du charbon. Elle avait traversé la lande de Mosfetl, où il n'y avait que peu de circulation, n'y avait croisé que les phares de quelques voitures qui retournaient vers la capitale. Seul un autre véhicule roulait en direction de l'est. Elle suivait la lueur rouge des feux arrière, heureuse d'être accompagnée. Elle, qui n'aimait pas conduire de nuit, se serait mise en route plus tôt si elle n'avait pas été retardée. Elle était chargée de communication dans une grande banque et elle avait fini par croire que les réunions et les coups de téléphone n'allaient jamais prendre fin. Elle savait la montagne de Grimmansfettl à sa droite